Donc, dans Hébreux 10, on va lire. On va lire les 18 premiers versets. Ça va être notre texte. Et c'est un texte de grande valeur, vous allez voir, et des vérités précieuses là-dedans. Beaucoup de citations de l'Ancien Testament accomplies en Jésus-Christ. J'ai hâte de vous partager ça. Vous êtes là tout le monde à Hébreux 10?
Oui.
En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation de ces choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici je viens, dans le rouleau du livre dont il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La célébration de notre salut éternel, le passage qu'on vient de lire est vraiment clairement et puissamment trinitaire. On croit à un Dieu qui se révèle à nous en trois personnes. Un Dieu, trois personnes distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et j'aimerais me servir de ce passage, alors qu'on se prépare à avoir le repas du Seigneur, comme pour souligner comment ce passage-là est tellement beau par rapport, oui, il est trinitaire, mais aussi, il nous montre comment notre salut est éternel, il est scellé. Ce n'est pas un salut qui se perd, c'est un salut qui est scellé et qui ne peut pas se perdre. Et vous rappelez-vous, là, ça fait combien de semaines? Tu sais, dans Ézéchiel, quand j'ai parlé d'un chiasme, vous rappelez-vous ça? J'avais parlé de ça, je pense que j'ai peut-être fait peur à du monde avec cette expression-là. C'est simplement une forme... Une forme de poésie où est-ce que ça s'en va comme ça, il y a un point climatique, puis ça part l'autre bord. Puis on a vu ça dans Ézéchiel 36-37. Puis qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que dans les deux, le milieu, c'était quoi? L'œuvre de Christ, la centralité de la croix. OK? Et la même chose ici, dans le passage qu'on a, ça part du Père, ensuite ça part du Fils, ensuite ça part du Saint-Esprit. On va voir ça ensemble. Encore là, la centralité de l'œuvre de Christ. Et c'est approprié pour le repas du Seigneur parce que le repas du Seigneur est la célébration de l'œuvre du Dieu Trinitaire avec le focus sur l'œuvre de Christ. Et le repas du Seigneur étant une célébration de notre salut éternel, en ce qu'il est, notre salut est immuable, il est scellé, il est éternel parce que Dieu est immuable. Et que tout en Dieu est parfait. Ce qu'il fait ne peut pas être défait. Ce qu'il fait est parfait. Donc, on va voir trois raisons de célébrer notre salut éternel. D'abord, dans les versets 5 à 10, on ne va pas tous les relire, parce qu'on les a lus déjà, mais je vais regarder quelques versets avec vous. Dans les versets 5 à 10, on voit la première raison pour laquelle on célèbre notre salut éternel, c'est parce que ce salut repose sur la volonté parfaite du Père. Dans les versets 6 à 7, il y a une citation ici du psaume 40. Et j'ai dit 5 à 7. C'est comme c'est une citation du psaume 40, 7 à 9. Et c'est comme si on avait, si vous voulez, une fenêtre inspirée sur la relation entre le Père et le Fils. C'est un dialogue entre le Père et le Fils par rapport à l'incarnation, par rapport au fait qu'il allait prendre un corps puis venir. Puis ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est la mission rédemptrice que le Père avait désignée pour le Fils. OK? C'est ça qu'on a vu, là, ce dialogue entre les deux. Et ces versets-là, bon, ben, sont dans l'Ancien Testament, mais sont accomplis dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Et ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle la volonté souveraine du Père dans son plan rédempteur éternel. Rien n'est au hasard, tout est prévu. Dieu, trois fois saint, a tout planifié d'avance. Le plan du Père est parfait, il est accompli en Jésus son Fils. Je l'ai lu ce matin, mais j'aimerais relire Éphésiens 1, 3 à 6 en ce sens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc voyez-vous, on voit déjà ici la volonté du Père, puis on a le même écho dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », ça commence de la même façon, « qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est qui garde? C'est Dieu. C'est lui qui garde. Connaissez-vous la différence entre la sécurité éternelle et l'assurance du salut? La sécurité éternelle, c'est le côté de Dieu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui a sécurisé notre âme, le salut, c'est lui qui le garde. L'assurance du salut, c'est notre côté qui, par la foi, accepte ça. L'un est inchangeable, il n'y a rien qui peut changer ça. Sécure éternellement dans la main de Dieu, nul ne peut nous ravir de la main de Dieu. L'assurance du salut, c'est là où est-ce que des fois, ça dérape parce que ça, ça nous implique. Ah, mais là, je suis sûr, je ne suis pas sûr, puis là, il peut avoir le doute. Mais vu que ce côté-là ne change pas, bien, ce côté-là peut s'accrocher tout le temps au fait que, hey, je peux avoir l'assurance de mon salut parce que mon salut est éternel. J'ai la sécurité éternelle qui est établie par la volonté même de Dieu. Et donc, la sécurité éternelle, qui est un fait, est la base de notre assurance du salut qui, elle, s'approprie par la foi. Pourquoi? Parce que, comme dirait Jonas, le salut vient de l'éternel. Et le salut, c'est pas juste un moment dans le passé, malgré que ça a commencé dans un moment dans le passé, mais c'est aussi un état spirituel présent, constant. Et là-dessus, on parle de la volonté du Père. Jésus lui-même a dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Donc, si Dieu ne veut pas perdre ceux que Jésus a sauvés, est-ce qu'on a à s'inquiéter? Tu sais, je veux dire, si c'est Dieu, pourquoi on s'en ferait? Et juste pour revenir ici à la prophétie du psaume 40 qui est accomplie en Jésus-Christ, pourquoi c'est important alors qu'on célèbre le repas du Seigneur? Parce que ça répond à un besoin profond de l'homme perdu dans les ténèbres, d'être restauré pour retrouver en Dieu le Père la vérité, la lumière par son Fils. À cause que Dieu nous aime, à cause que le Dieu le Père nous a aimés, maintenant on peut connaître la vérité. Et cette vérité, elle est connue par son Fils qui l'a envoyé. Écoutez, dans ce sens-là, Jean, au chapitre 1, mais je l'ai-tu écrit sur ma feuille? I am in the patate, je pense que je ne l'ai pas écrit sur ma feuille. Mais c'est pas grave. Hein, comment ça que je ne l'ai pas écrit sur ma feuille? C'est bien bizarre, ça. Ah non, je l'ai ici. Je pense que je m'en viens vieux. T'es correct?
Oui.
OK. Phew. Ça parle de la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Personne n'a jamais vu Dieu, verset 18. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, on peut connaître la vérité de Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ qui l'a envoyé. Donc, si ce n'était pas de cette intervention de l'amour de Dieu, de l'exercice de sa volonté, l'homme serait dans les ténèbres, dans la peur, dans l'incertitude constante. Maintenant, je vous pose cette question. Si on a bénéficié du salut qui est en Jésus-Christ, par notre Père aimant, pensez-vous que Dieu, après avoir sauvé quelqu'un, pour en faire un saint, d'avoir pris un pécheur puis d'en faire un saint, pensez-vous qu'il laisserait dans l'incertitude des ténèbres, lui qui est passé des ténèbres à la lumière? Pourquoi il serait dans les ténèbres du mensonge? Bien sûr que non, Dieu ne ferait pas ça. Parce que maintenant, on est dans la lumière de la vérité et Dieu nous a sortis de la vie de mensonge dans laquelle on était. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on peut célébrer notre salut éternel. C'est la volonté de Dieu, le Père, sa volonté parfaite. Mais une autre raison très solide aussi pour laquelle on célèbre notre salut éternel, c'est parce qu'il repose sur le sacrifice parfait. Non seulement la volonté parfaite du Père, mais le sacrifice parfait du Fils. Et on a lu dans les versets 11 à 14, ça nous parle vraiment de l'œuvre de Christ, mais remarquez spécialement au verset 14, « Car par une seule offrande, ça c'est le sacrifice de Christ, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc, il a amené à la perfection. Nous ne sommes pas la source de notre salut. Le salut, je l'ai dit, vient de l'Éternel. Si ça venait de moi, ben là, tu sais, moi, je fais rien de parfait. Mais si ça vient de Dieu, on peut être tranquille. Puis ça dit, non seulement à la perfection, mais pour toujours. Essayez de battre ça, c'est deux absolus. Perfection, toujours. Le salut de Dieu, il est parfait et il est éternel. C'est pas nous qui nous gardons, c'est pas notre justice qui nous garde, c'est la justice de Christ qui est parfaite, qui nous garde devant Dieu. C'est ça le fondement de notre assurance. C'est pas notre justice, c'est celle de Christ. Et cette assurance encore là vient encore là de tout le bagage de l'Ancien Testament, les vérités prophétiques qu'il y avait dans le système de sacrifice, parce qu'on voit ici l'arrière-plan, ici la lettre aux Hébreux, ces gens-là connaissaient le système des sacrifices, ça parlait des boucs et des taureaux. Bien, ce système sacrificiel annonçait la culmination de tous ces sacrifices-là dans le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Puis on a ça partout dans la Bible, mais je pense que l'apogée de ça, je pense, c'est Ésaïe 53. Ésaïe 53, en tout cas, on voit le Fils. Puis psaume 22, c'est pas mal fort aussi. Oui. Des psaumes messianiques comme ça qui nous parlent du sacrifice de Christ. Et ça répond aux besoins de l'homme d'être restauré par le chemin de la rédemption. Il y a un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Lui qui, l'homme, était rejeté, il était abandonné de Dieu à cause de son péché, il peut retourner à son Père par Jésus, le Rédempteur. Ainsi, le repas du Seigneur, en tant que célébration, célèbre la restauration de la relation par l'intermédiaire de Christ, le substitut, celui qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Autrement dit, on célèbre la fin du rejet, le renouveau de l'acceptation par le chemin vers le Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Savez-vous ce qu'on va faire tantôt? On va se glorifier dans le Seigneur. On va se réjouir de dire, wow, quel grand salut. On ne va pas se penser bon. On va se réjouir comment Dieu est bon. C'est ça que ça veut dire, se glorifier dans le Seigneur. Ça m'amène à la troisième raison pour laquelle on célèbre notre salut éternel, non seulement parce qu'il repose sur la volonté parfaite du Père, sur le sacrifice parfait du Fils, mais aussi sur l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, c'est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et versets 16 et 17, c'est une citation de Jérémie 31, la Nouvelle Alliance. « Voici, je verrai avec eux une alliance Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Mais surtout au verset 16, l'alliance, c'est que Dieu donne un nouveau cœur. On a ça dans Ézéchiel, on a ça dans Jérémie 31. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et cette citation de Jérémie 31, puis comme j'ai dit, Jérémie 31, mais aussi dans Ézéchiel, Ézéchiel 11, Ézéchiel 36, c'est l'accomplissement par la régénération complète et entière du Saint-Esprit de toutes les prophéties. La volonté du Père, le Fils est venu, puis le Saint-Esprit rend ça actuel dans la vie individuelle des gens, un par un. On dit le salut vient de l'Éternel, c'est par Jésus-Christ, puis c'est le Saint-Esprit qui régénère, qui donne un nouveau cœur. Il vient habiter dans ceux qui se confient dans le sacrifice de Christ. Et je l'ai dit, c'est une régénération complète. On n'est pas à moitié régénéré. Comme on n'est pas à moitié né dans ce monde. On est né au complet. Okay? Puis on ne peut pas être non plus à moitié sauvé. La Bible dit, c'est une affaire de 100%. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est Dieu qui restaure une vie d'espérance en nous. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 8 de Romains. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas seulement elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tu sais, on a un sentiment, mais ça ne tourne pas rond. Effectivement, ça ne tourne pas rond. Ça ne tourne pas comme c'est supposé. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous a régénérés, mais ce même Saint-Esprit aussi nous dit... c'est pas la fin de l'histoire, le meilleur est à venir. Vous voyez comment c'est brisé dans ce monde? Moi, je vais régénérer ça au complet, tout. Puis tout va aller comme au tout début. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait ça. On soupire. Puis ça dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit pas n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On n'est pas encore sauvé de la présence du péché. Il y a encore le péché dans nos vies. Il y a le péché dans ce monde. Mais un jour, gloire à Dieu, quand on va aller rencontrer le Seigneur, il n'y aura même plus de péché. Il n'y aura plus la présence même du péché. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit comme ça, avec son œuvre de régénération, nous délivre d'une vie de honte, de destruction, puis régénère. Il nous donne des nouveaux désirs, des nouvelles pensées, une nouvelle direction à notre vie. Puis on retrouve de la valeur. Pourquoi? Parce que nous, tout croche, pécheurs, il nous prend, puis il fait de nous un joyau de sa grâce. Et cette valeur, ce qui est super, qu'elle n'est pas en nous-mêmes, de par nous-mêmes. Parce que là, on dira, ah, ben moi, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, elle est par ce que Dieu le Père a fait à travers le Fils et qui s'accomplit par le moyen de la régénération du Saint-Esprit. Ça m'amène à terminer avec les deux derniers versets qu'on a lus aujourd'hui. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça résume bien ces versets-là. L'esprit ou le but ici de la célébration de notre salut éternel, c'est que puis avec le repas du Seigneur, c'est une remémoration de l'œuvre de Dieu, mais plus précisément de l'œuvre de Dieu par le sacrifice de Christ, par la croix et la résurrection. Et à cause de ça, on peut se réunir autour de la table du Seigneur après-midi avec de l'assurance qui est basée sur les Écritures, qui est basée sur le caractère de Dieu lui-même, les trois personnes de la Trinité. Et tout ça culmine dans la croix qui nous rappelle l'œuvre parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on le ramène constamment. Le repas du Seigneur, ce n'est pas une option, c'est une ordonnance du Seigneur, parce qu'il veut qu'on garde devant nos yeux comment c'est précieux, comment on ne doit pas le prendre pour acquis, mais en être reconnaissant. Donc, je vous encourage tous à approcher cette table avec une pleine assurance. l'assurance, la joie complète, celle de posséder un salut éternel, immuable, parfait. Quelle belle vérité! On peut avoir de l'assurance en notre Dieu. Nous-mêmes, si on n'est pas fidèle, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Amen?
Amen.
Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Merci pour des passages comme ça qui regorgent de vérité sur qui tu es, le Dieu trinitaire, sur toutes les prophéties qui annonçaient ton œuvre et comment tout ça est accompli parfaitement. Et nous pouvons vraiment en bénéficier. Et Seigneur, on veut se réjouir en cela. On veut célébrer notre salut éternel. Seigneur, dispose nos cœurs de faire le silence, le calme. Seigneur, on veut s'arrêter devant toi. Il y a un côté solennel, il y a un côté célébration aussi, Seigneur. On désire vraiment porter nos yeux sur toi dans la joie, la paix et la reconnaissance. Merci, Seigneur, que tu es avec nous. Merci pour ta fidélité. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.